Bonjour et bienvenue au balado du BAP dans le cadre de la formation pour une relation pédagogique exempte d'intimidation, de harcèlement et de discrimination.
Bonjour, je m'appelle Justine Boulay, je suis en troisième année de résidence en chirurgie orthopédique.
Bonjour, je m'appelle Idrissa Diallo, je suis étudiant au doctorat au Centre de recherche du CHU de Québec. Justine et moi, on est les animateurs aujourd'hui et on s'entretient avec trois membres du BAP.
Le BAP, pour commencer, c'est le Bureau d'assistance au personnel enseignant de la Faculté de médecine. Voici nos invités.
Je suis le Dr Luc Bédard, je suis chirurgien orthopédique, puis je suis l'actuel directeur du BAP.
Bonjour, je suis Dr Josette Castel, dans le domaine de la médecine familiale.
Bonjour, je suis Pierre Savard, professeur de génétique, issu du domaine de la recherche biomédicale.
Aujourd'hui, on va parler entre autres de discrimination, d'harcèlement et d'intimidation. On est en 2022, on pourrait croire que les temps ont changé. Justine, j'aimerais savoir si c'est encore d'actualité dans ton milieu.
Je vais te répondre par un exemple, Idrissa. En 2016, la Fédération des médecins résidents du Québec a lancé un sondage pour les résidents par des résidents pour évaluer la présence d'intimidation et de harcèlement au travail. Ce sondage a un peu été fait pour comparer les données à un sondage qui a été fait il y a 20 ans plus tôt. Donc, les mêmes questions 20 ans plus tard, est-ce que ça a changé? Puis, ce qui en ressort, c'est que 45 à 50 % des médecins résidents disent avoir été victimes d'harcèlement, de discrimination ou de mauvais traitement durant leur résidence et que la source de cet harcèlement-là provient à 55 % du personnel infirmier. Les milieux chirurgicaux sont les plus touchés à près de 30 %. C'est suivi de près par la médecine interne à près de 21 %. À titre comparatif, c'est 13 % des Canadiens qui disent avoir vécu au cours de la dernière année toute forme d'harcèlement au travail ou aux études. La forme la plus fréquente de harcèlement, ce serait l'humiliation. Donc oui, Idrissa, je dirais que c'est encore très d'actualité malheureusement.
Wow, ces chiffres sont vraiment troublants. Mais qu'en est-il du milieu de la recherche, en fait, docteur Pierre Savard?
Idrissa, Statistique Canada a publié deux études à ce sujet. Une sur le harcèlement en milieu de travail parue en 2018 et une autre sur le harcèlement et la discrimination chez le corps professoral et les chercheurs des établissements postsecondaires au Canada qui est parue en 2021. D'autant que dans cette dernière étude, la définition du chercheur incluait les étudiants au doctorat et les stagiaires postdoc. En bref, les données concernant les expériences vécues liées au harcèlement en milieu de travail au Canada ont révélé qu'environ un travailleur canadien sur cinq dit avoir été victime au cours de l'année précédente. Que chez les professeurs du niveau postsecondaire, ce niveau est à un travailleur sur quatre. Et finalement, que les personnes en position d'autorité sont responsables du deux tiers des comportements problématiques, le reste provenant des collègues, des autres étudiants et du public en faible proportion.
C'est vraiment intéressant. On a nommé plusieurs chiffres, mais vraiment, c'est quoi la différence entre l'intimidation, le harcèlement, la discrimination, etc.?
On va commencer par intimidation. Intimidation, on pourrait définir ça par tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non, qui peut être à caractère répétitif ou non, exprimé directement ou indirectement. Cela peut être aussi par Internet. Puis, dans un contexte caractérisé par une inégalité des rapports de force entre les personnes concernées. Mais cette intimidation-là, elle a pour effet d'engendrer des sentiments de détresse, de léser la personne, de la blesser, de l'opprimer ou de l'ostraciser.
Donc, par exemple, dans des exemples d'intimidation qu'on peut voir fréquemment, il y a l'humiliation, comme tu as parlé tout à l'heure, Justine, il y a aussi les remarques désobligeantes, les injures, les tâches punitrices. Il y a les menaces implicites à l'évaluation ou à la carrière, l'atteinte à la réputation qui peut être soit par ragot ou par Internet ou par les médias sociaux, par exemple. Il y a le rejet du blâme sur l'étudiant ou encore des exigences de travail qui sont exagérées. Fait que tout ça peut être des exemples de formes d'intimidation.
Ça se distingue du harcèlement, qui est caractérisé plutôt par des comportements, des paroles ou des actes à caractère sexuel ou non, qui sont hostiles ou non désirés et qui portent atteinte à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychologique. Le milieu de travail ou d'études devient donc néfaste pour la personne visée. Un seul comportement problématique peut constituer du harcèlement. Des blagues à caractère sexuel, la diffamation, des surnoms affectueux, des avances, des promesses de récompense en échange d'un service d'ordre sexuel ou des remarques sur l'apparence physique sont tous des exemples de harcèlement.
Donc, on a évoqué l'intimidation en définition et l'humiliation, le harcèlement aussi. Mais qu'en est-il de la discrimination, Dr Castel?
Ben, la discrimination, si on la définit, ça serait l'acte de défavoriser une personne sur la base d'un motif tel que l'origine ethnique, le sexe, l'identité sexuelle, la religion, l'âge ou les handicaps. Ce sont souvent les plus impliqués. Cela fait plutôt appel en fait aux stéréotypes ou aux préjugés qui vont alimenter une distinction, une exclusion ou une préférence envers des individus. Mais j'aimerais aussi aborder la discrimination systémique, qui est un sujet plus complexe, mais on en entend parler plus fréquemment ces dernières années. Je vais vous donner une définition, elle est un peu ardue, mais elle est importante à préciser. C'est une somme d'effets d'exclusion disproportionnés qui résultent de conjugaisons d'attitudes empreintes de préjugés et de stéréotypes, qui peuvent être souvent inconscients, et de politiques et pratiques généralement adoptées sans tenir compte des caractéristiques des membres du groupe visé.
C'est en effet une définition assez ardue, Dr Castel. Est-ce que vous avez un exemple un peu plus concret pour mieux illustrer ce principe?
Je pourrais vous illustrer la discrimination systémique par l'exemple du système de protection de la jeunesse de la DPJ. On a observé et documenté une surreprésentation des enfants autochtones au niveau de la DPJ. Alors, des études vraiment ont démontré que les enfants autochtones, comparativement aux enfants non autochtones, peuvent être jusqu'à 6 fois plus signalés à la DPJ, 5 fois plus pris en charge et 8 fois plus placés en milieu substitut que les enfants non autochtones. Donc, on s'est demandé pourquoi. En fait, la DPJ définit la négligence comme l'échec du rôle parental et l'échec des parents de subvenir aux besoins de leurs enfants. En faisant ça, l'accent sur la responsabilité parentale va occulter les valeurs des familles autochtones et va occulter les conditions de vie actuelles des autochtones, des communautés autochtones. Et on le sait que il y a des conséquences de la colonisation et des pensionnats indiens avec toutes les répercussions que l'on connaît sur les conditions de vie actuelles des peuples autochtones au niveau de l'accès à l'éducation, à l'emploi, le niveau socio-économique faible, les conditions de logement et de santé plus précaires. Alors, les intervenants sociaux non autochtones, de façon générale, ne reconnaissent pas toujours le rôle de la famille élargie dans le soin et l'éducation des enfants. Ce qui fait que le système allochtone de la DPJ, basé sur des valeurs occidentales, ne peut s'appliquer aux enfants autochtones qui vont être discriminés par ce système. Un pas, cependant, a été franchi en janvier 2020 parce que le gouvernement a changé la loi pour permettre à chaque communauté autochtone, finalement, d'adopter ses propres lois sur la protection de l'enfance.
C'est en effet vraiment beaucoup plus clair et c'est assez troublant de penser que tout qu'un système peut viser une minorité, là.
Est-ce qu'un comportement discriminatoire a besoin d'être sévère pour être considéré comme un comportement vexatoire? C'est quoi, Dr Castel, que vous pouvez nous dire à ce sujet-là? Où est le seuil?
Tout à l'heure, justement, je rappelle, on avait évoqué l'intimidation qui a pour effet d'engendrer des sentiments de détresse, de léser, de blesser la personne qui est concernée. Mais chaque personne va posséder un seuil différent face aux agressions de la vie. On pourrait faire référence ici au phénomène, par exemple, de microagression. C'est une forme de harcèlement qui se caractérise par des affronts quotidiens et des insultes que les minorités subissent, des propos, des comportements qui vont être d'apparence banale envers une communauté, mais qui peuvent être perçus comme péjoratifs ou insultants. Et même la personne émettrice de la microagression ne le fait pas forcément de manière intentionnelle. Ce qui fait que la majorité du groupe dominant ne va pas les remarquer ou ne va pas vraiment les prendre au sérieux. Et je peux vous donner un exemple. Une personne de couleur qui se fait demander à chaque jour d'où elle vient peut se sentir exclue et irritée au long cours. On lui rappelle qu'elle fait partie de la minorité visible.
À titre personnel, je me retrouve totalement dans ce que vous dites, docteur. Étant d'origine étrangère, du Sénégal précisément, j'avoue que la question « d'où viens-tu » est une question très, 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 très fréquente. Et là, je pense que ça peut être un peu agaçant pour certaines personnes qui sont nées au Québec ou qui se sentent vraiment québécois dans leur âme et qui ne souhaitent pas évoquer donc leurs origines étrangères.
Docteur Savard, vous avez cité une étude plutôt de Statistique Canada. Je voudrais savoir, est-ce que cette étude parle des différents types d'harcèlement et ceux qui reviennent le plus souvent, surtout dans des milieux autres que la santé, comme on parle depuis tantôt?
Justine, les conclusions générales de leurs données sont que, à part la violence physique, tous les autres types de harcèlement sont plus fréquents dans le milieu de l'enseignement postsecondaire et que ce sont les femmes qui sont le plus souvent victimes. De plus, l'enquête sur le corps professoral et les chercheurs de niveau postsecondaire avaient pour but de combler les lacunes en matière de données sur l'équité, la diversité et l'inclusion parmi les personnes qui enseignent ou effectuent des recherches dans le secteur postsecondaire canadien et de fournir un aperçu des expériences de carrière et des obstacles à l'avancement professionnel. Les résultats de l'enquête révèlent 4 autres conclusions. Qu'être une femme double la fréquence de subir un traitement injuste ou une discrimination et augmente de 50 % la fréquence d'être l'objet d'au moins un type de harcèlement par rapport à un homme. Une deuxième conclusion est qu'être une minorité visible augmente de 50 % la fréquence de subir un traitement injuste ou une discrimination par rapport à une minorité non visible. Une autre est que posséder une identité autochtone double presque la fréquence de subir un traitement injuste ou une discrimination et augmente de 25 % la fréquence de subir au moins un type de harcèlement par rapport à une identité non autochtone. Finalement, avoir une incapacité autodéclarée double la fréquence de subir un traitement injuste ou une discrimination et la fréquence d'être l'objet d'au moins un type de harcèlement par rapport à une personne n'ayant pas de capacité autodéclarée. En bref, dans le milieu de l'enseignement postsecondaire, il vaut mieux ne pas être une femme autochtone avec une incapacité autodéclarée si on ne veut pas vivre de traitements injustes, de discrimination ou de harcèlement au travail.
Incroyable. Bon, l'inconduite sexuelle est une forme d'intimidation et d'harcèlement connue, mais est-ce qu'elle est fréquente dans le domaine de la santé et de la recherche? Est-ce qu'on la retrouve vraiment?
Ça, selon le bureau du syndic, sur 44 ordres professionnels répertoriés au Québec, 12 ont dû rendre une décision disciplinaire à l'endroit de leur professionnel pour une inconduite sexuelle. Ces plaintes ont été déposées principalement contre des professionnels de la santé. Les médecins sont les plus touchés, ensuite les psychologues, les infirmiers, les physios, et ainsi de suite jusqu'aux chiropraticiens. On constate donc que les plaintes sont plus fréquentes dans les métiers de relations d'aide comme celui du domaine de la santé.
On a fait le tour de l'intimidation, de l'harcèlement, de la discrimination, mais ça reste qu'on travaille dans des milieux où il y a une hiérarchie. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme une autorité un peu plus saine, là, entre guillemets? Là? Qu'est-ce qui n'est pas de l'harcèlement, de l'intimidation, de la discrimination?
En fait, ce qui n'est pas de l'intimidation ou du harcèlement, c'est ce qu'on appelle le droit de gérance. Fait qu'un supérieur hiérarchique ou un professeur a le droit d'exiger d'avoir une qualité de travail ou d'avoir l'atteinte d'objectifs et il a le droit d'être perçu comme exigeant. Cependant, il faut que ces exigences soient absentes de discrimination et il ne faut pas que ce soit abusif ni sur un groupe ni sur la personne concernée en particulier. Un des moyens, c'est d'avoir pour les enseignants des objectifs de stage qui sont clairs, des attentes qui sont connues au début du stage. Puis l'autre moyen, c'est d'avoir un processus d'évaluation qui est fait dans les règles de l'art de l'organisation concernée dans laquelle les gens sont.
Ça fait du sens. Bref, moi, ce que je retiens, c'est que l'harcèlement, l'intimidation, la discrimination, c'est fréquent. C'est très peu dénoncé et ça vient de partout, pas seulement du supérieur hiérarchique. C'est un peu décourageant tout ça, mais dans la deuxième partie, on va aborder un exemple de situation problématique et discuterons de différentes pistes de solutions pour justement se sortir de ces situations-là.
Rebienvenue au balado pour une relation pédagogique exempte d'intimidation, d'harcèlement et de discrimination. Dans cette deuxième partie, j'aimerais qu'on discute d'une situation qui m'a beaucoup interpellé. Un collègue à moi qui présente ses résultats de façon un peu désorganisée a subi une rafale de questions. Le directeur posait de nombreuses questions allant donc de la problématique de l'étude à vraiment d'autres questions en profondeur, mais on sentait dans la salle que l'étudiant ne contrôle pas la situation et que la préparation n'était pas bonne. Malgré cela, le chercheur quand même continuait sur un ton inquisiteur jusqu'à ce que cette personne-là fonde en larmes. Après la réunion, ce qu'on a entendu, c'est que le directeur disait tout simplement qu'en recherche, on apprend parfois à la dure. Et c'est ainsi. Donc, c'est une situation qui m'a beaucoup questionné et j'aimerais savoir ce que tu en penses, Justine.
Mais premièrement, moi, je ne croyais pas que c'est une pratique autant répandue. Je pensais que c'était propre à mon milieu de médecine clinique. Je crois que le sentiment commun dans ces situations-là, c'est qu'on se trouve dans une situation où on se sent brimé, on est dans une situation où on est dans une position d'infériorité, puis c'est difficile de réagir à cause de la pyramide d'enseignement. Ça peut vraiment être humiliant, là.
En fait, Justine, moi, je pense que la technique d'apprentissage par questionnement peut être valable, mais tout le monde va s'entendre que personne ne devrait se rendre jusqu'aux larmes avec cette technique-là. Ça, c'est contre-productif et c'est clairement non pédagogique. Mais la technique d'apprentissage par questionnement, bien, ça peut être tout de même une technique d'apprentissage qui est valable. Fait que pour certains étudiants, ça peut très bien fonctionner. Les étudiants qui s'expriment verbalement de façon à l'aise vont en général être bons avec cette technique-là, tandis que ça peut être plus difficile pour d'autres qui ont plus de difficultés à s'exprimer. Fait qu'il faut donc s'adapter à l'interlocuteur. Comme corps professoral, il faut aussi s'adapter aux exigences, aux objectifs de stage, puis au niveau de formation des étudiants en question. Cependant, mitrailler les étudiants sur leurs connaissances jusqu'à les faire pleurer, clairement, ce n'est pas une technique pédagogique qui est adéquate ni souhaitable.
Ouais, c'est vrai qu'en effet, la nuance est importante. Moi, je fais partie, je crois, des étudiants qui répondent bien aux questions techniques d'apprentissage, mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde, là.
Oui, moi, je pourrais dire, comme enseignant, par exemple, pour éviter de retrouver dans une telle situation, il est important de définir des objectifs d'apprentissage avec les étudiants, puis éviter, bien sûr, d'aborder des sujets hors de leur niveau de formation et de proportionner vraiment les questions à leur niveau de formation. Puis, peut-être pas oublier non plus le contexte, parce qu'il faut être conscient du contexte de l'étudiant. Est-ce qu'il est, cet étudiant-là peut être en lendemain de garde, en période d'examen, vivre des difficultés personnelles. Bref, tout le monde peut avoir une mauvaise journée. L'enseignant lui-même, il doit être capable de faire preuve de discernement par rapport à la situation, saisir l'atmosphère de malaise qui est là, essayer de décoder le non-verbal aussi de l'étudiant, puis de faire des ajustements en conséquence, là. Un étudiant ne devrait pas avoir peur d'entrer dans une réunion ou un cours par la peur de se faire trop marteler de questions. Ça ne crée pas un climat d'apprentissage adéquat et ça ne crée pas un climat de sécurité psychologique qui est vraiment important dans un contexte d'apprentissage.
Ça fait du sens. De ce que vous dites, je comprends que ce n'est donc pas tout blanc ou tout noir. Mais comment peut-on réagir, en fait, si on est témoin de ce genre de situation ou qu'on en est la cible?
Moi, je dirais que dans tous ces cas-là, lorsqu'on se sent victime ou qu'on est témoin, il faut en premier lieu le reconnaître soi-même, c'est-à-dire qu'il faut le malaise qu'on ressent. D'abord, c'est de prendre acte que ce malaise, il est là. Et qu'est-ce qu'on veut faire avec ce malaise-là on intervient ou on n'intervient pas? On veut manifester son malaise ou pas? Si la réponse est oui, il est important de rester professionnel, même si les interlocuteurs ne le sont pas. Répondre à la source de l'irritation, c'est important, mais Paul n'est pas répondre aux insultes en soi, viser le comportement inadéquat, mais pas la personne. Parler de l'impact de ce comportement-là sur soi, ce qui fait qu'on va beaucoup plus parler en jeu, éviter les tons inquisiteurs, puis surtout ne pas rester seul avec le problème.
Et en fait, ça dépend de qui on est, si on est la cible ou si on est un des témoins de la scène. Si, par exemple, on prend la position du témoin, on pourrait juste intervenir en attrapant une des questions au passage pour détourner l'attention. Puis on peut renchérir en disant, par exemple, que cette question-là n'est pas du bon niveau de formation ou voire même encore dire « moi, je ne sais même pas la réponse ». Ça peut aider la personne inquisitrice à reconnaître son comportement problématique, voire à l'améliorer ou à le cesser.
Moi, je ferais du pouce pour poursuivre dans ta voie. Là. Comme témoin, je pourrais renvoyer la question à quelqu'un d'autre, ou si je constatais que ce comportement démesuré était répété, je pourrais rencontrer en privé la personne inquisitrice qui questionne avec trop d'ardeur.
Comme témoin, moi, je me dis, ben, je pourrais revenir sur l'événement avec la personne, par exemple, qui a été questionnée, puis je pourrais lui faire part de mon malaise à moi l'autre jour dans cette situation-là, puis aller m'enquérir de comment elle a vécu cette situation-là.
Ou une autre façon, si vous ne voulez pas intervenir directement au moment de la situation, ben, une autre façon de faire, c'est de varier les techniques pédagogiques, voire de les enseigner à votre groupe. Fait qu'une réunion subséquente fait changer de technique pédagogique en faisant un atelier, un travail individuel, une rencontre de groupe. Ou vous pouvez aussi faire une réunion ou une rencontre sur les différentes autres techniques pédagogiques qui sont possibles. Puis si on se met dans la situation de la cible maintenant, là, c'est un peu différent. En fait, vous allez réagir, les gens vont réagir en général exactement de la même façon qu'ils réagiraient dans d'autres circonstances difficiles, dépendant de qui ils sont. Fait que ça peut aller du mutisme, certains vont être capables de le dire ouvertement, d'autres vont s'écraser. Ça dépend vraiment de la façon personnelle que les gens ont de réagir ou de voir comment ils veulent s'impliquer.
Oui, que voilà, dans mon cas, j'aurais tendance à en parler avec des témoins pour considérer leur perspective dans ma réflexion sur l'événement que j'ai vécu.
Mm-hmm. Moi, comme cible, si dans cette situation-là, je me sens à l'aise de le faire, ben, j'irais dire, jusqu'à dire que la question elle n'est pas de mon niveau. Je pourrais exprimer ici que je ne connais pas la réponse et renvoyer, par exemple, la question à quelqu'un d'autre qui est présent, là.
En effet, il faut éviter d'ignorer ces comportements, car les ignorer signifie encourager ces mêmes comportements actuels.
Oui, parfois, on ne sera juste pas capable de manifester notre malaise sur le coup, mais c'est tout à fait correct de le faire aussi après les événements. Puis ça peut être utile d'aller chercher de l'aide, soit d'un témoin de la scène, d'un collègue ou d'une personne d'autorité avec qui on se sent en confiance pour aller un peu plus loin. Parce que comme Pierre a dit, si on ne fait rien avec ces situations-là, ben, les ignorer, c'est les entériner. Ça va juste encourager les gens à faire les mêmes comportements. Puis ça implique que ça ne changera pas les comportements qui sont répréhensibles ou imparfaits.
Donc, en résumé, je comprends bien qu'il y a plusieurs façons de réagir, dépendamment du point de vue de qui on est. Donc, on peut renvoyer la question, intervenir directement, parler à la personne en privé. Tout compte fait, ce qu'il faut retenir, donc, c'est de ne pas rester seul avec le problème. C'est bien cela?
Mais si oui, justement on pense être dans une situation d'intimidation, d'harcèlement ou de discrimination, comment on fait pour aller chercher de l'aide? Comment on ne reste pas seul là-dedans?
Bonne question, Justine, à laquelle la réponse n'est pas simple parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de répondre aux situations de harcèlement et d'intimidation. Il faut tenir compte de l'institution qui est concernée, de son implication dans la situation et surtout du niveau de confiance avec les interlocuteurs. Par exemple, la personne ciblée ou témoin peut, si elle se sent en confiance, discuter le problème directement avec la personne impliquée. C'est ce qui est le plus simple. Pour les étudiants de médecine, la DAE a développé un mécanisme d'appel à l'aide qui assure un retour personnalisé et confidentiel, respectant la confidentialité et de la dénonciation et le contrôle au plaintif de la décision d'intervenir. Pour les professeurs, ce mécanisme n'est pas accessible. Il faut alors considérer les directions de programme, les directions de département, les directions de recherche, le CPIMH, qui est un centre de prévention de l'intimidation et du harcèlement à l'Université Laval. Bref, toute personne en autorité en qui on a confiance. Lorsqu'on a des doutes sur le cheminement qu'on devrait choisir pour présenter une dénonciation, on peut consulter le BAP, un espace neutre et confidentiel qui possède une certaine expertise dans ce domaine et qui peut présenter et discuter diverses options concernant un plan d'action. La recommandation générale à la question serait donc de ne pas rester seul avec le problème pour pouvoir prendre une décision éclairée sur un plan d'action et de s'assurer de rester maître de la décision d'intervenir ou de ne pas intervenir.
OK, super, excellent. Merci beaucoup à nos invités. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous plus informés sur ce qu'est l'intimidation, la discrimination et le harcèlement et comment on peut s'en sortir, qui est que la situation dans les milieux de la santé, les milieux du travail en général s'améliore. Donc, merci beaucoup à nos invités du PAP là, pour cet échange constructif-là. Puis, si jamais on veut en apprendre plus, là, on s'y prend comment?
En fait, pour poursuivre, on vous invite à participer à la seconde partie de la formation dans un atelier interactif en groupe. Fait que fort des connaissances apprises dans le balado, on va travailler en groupe sur plusieurs situations réelles qui sont arrivées à l'Université Laval, puis qui ont été élaborées à partir de différentes situations vécues et qui sont traitées de façon anonyme. Et je vous remercie beaucoup, nos deux animateurs, pour cette belle discussion.
Merci.
Merci.
Merci à vous.